Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est là, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Divisé en 7 cours prénataux, oui. Donc, on parle ici d'une leçon par chapitre. Le livre coécrit par Sylvie Thibault et Isabelle Roy fournit toute l'information nécessaire pour vous préparer à votre grossesse, à l'accouchement, à la période postnatale qui suit donc l'accouchement. Donc, si vous attendez un bébé ou si vous espérez vous... espérant en avoir un, vous travaillez fort là-dessus, eh bien, Isabelle Roy sera là en deuxième partie d'émission pour nous parler de ce livre, Nos cours prénataux à la maison, se préparer à l'accouchement en 7 leçons. Mais d'abord, le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurologique qui se définit par 3 symptômes principaux. On parle ici d'inattention, hyperactivité, impulsivité. Au Québec, on a commencé à diagnostiquer le TDAH dans les années 50 et c'est maintenant le trouble du comportement le plus fréquent chez les enfants, chez les adolescents également. Il touche environ entre 5 et 8 des enfants d'âge scolaire. Donc, c'est un diagnostic qui semble toujours vouloir aller en augmentant. Qu'est-ce qui explique ça? L'abondance des surdiagnostics. J'en parle avec le docteur Jacques Leroux, lui qui est pédiatre à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Bonjour, docteur Leroux.
Bonjour, Madame Paquette.
Le TDAH qui semble avoir pris des proportions inquiétantes chez les enfants dans les dernières années, les proportions d'enfants qui fréquentent l'école et qui prenaient des médicaments, on parle ici de Ritalin surtout, est passé de 1,9 % à 3,3 % de 1994 à 2007. J'ai tiré cette information-là d'un article signé par Dominique Forget dans l'actualité, publié en mars dernier. Est-ce qu'il y a réellement plus d'enfants qui vivent avec un TDAH?
Il y a une certitude, c'est qu'il y a plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec un TDAH qu'auparavant. Maintenant, moi, à chaque fois que je diagnostique un enfant, après quelques semaines ou mois de traitement, il y a un des deux parents qui me dit « Vous savez, j'étais comme mon enfant quand j'étais jeune. »
Oui.
Alors, il y a... À mon avis, il n'y a probablement pas beaucoup plus de TDAH dans notre société qu'il y en avait il y a plusieurs dizaines d'années. Maintenant, notre société les découvre plus facilement, disons, et plus sensibilisée au diagnostic et les recherche plus activement.
Donc, pas nécessairement plus d'enfants qui vivent avec le TDAH, mais plus de diagnostics parce que les médecins semblent plus avisés. Est-ce que les critères pour émettre les diagnostics sont suffisamment clairs? C'est-à-dire, comment on peut émettre ce diagnostic-là?
Bon, les diagnostics sont émis dans le DSM... Ils ont été émis dans le DSM-3, dans le DSM-4, dans le DSM-4-TR, dans le DSM-5.
Mm-hmm.
Donc, depuis plusieurs années, on a des diagnostics clairs pour poser le diagnostic. Ce qui est très décevant pour certaines personnes, c'est que nous n'avons aucun test biologique pour diagnostiquer.
C'est-à-dire pas de prise de sang?
Pas de prise de sang, pas de radiologie, pas d'électroencéphalogramme ou de scan ou de test qui nous dirait bien, noir, oui, c'en est un, blanc, non, c'en est pas un. Ou vous comprenez, là, quelque chose qui trancherait. Alors, c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique, donc qui laisse place à beaucoup d'interprétations et mais des fois les gens peuvent être un petit peu déçus du diagnostic.
Déçus et inquiets si on pense aux parents.
Oui, ben, c'est sûr que les parents peuvent être inquiets quand on leur dit ça. Maintenant, le diagnostic, c'est quelque chose qui doit se faire en équipe.
Mm-hmm.
Okay, c'est, le médecin ne doit pas faire un diagnostic de TDAH seul dans son bureau. Ça doit se faire en collaboration avec la famille. Vous parliez que l'école signalait souvent des tableaux où tu sais, en parlait aux parents et leur disait d'aller voir le médecin. Alors, c'est sûr que l'enseignant, l'éducatrice de l'école, c'est ça, les gens du milieu scolaire, mais sont des personnages importants. Mais si l'enfant a des loisirs, alors son entraîneur, son moniteur, c'est les personnes au service de garde sont aussi des personnes très importantes à consulter. Donc, c'est un diagnostic clinique qui doit se faire en équipe.
Et ça prend combien de temps? C'est-à-dire, vous devrez voir combien de fois l'enfant, sa famille, parler combien de temps avec l'équipe école pour pouvoir affirmer un diagnostic, Dr. Leroux?
C'est difficile à quantifier avec précision parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Si vous prenez, disons, il y a un organisme qui s'appelle CADRA, C-A-D-D-R-A, qui se veut l'organisme des normes canadiennes pour le diagnostic du TDAH. Eux recommandent aux médecins de le faire en plusieurs visites. Donc, ils vont recommander facilement 6 à 8 visites de 15 minutes avant de faire le diagnostic. Moi, je travaille en troisième ligne dans un hôpital psychiatrique, alors habituellement, je vais allouer 2 heures de temps pour avoir une première impression du patient.
Toujours dans cet article signé par Dominique Forget dans l'actualité qui s'intitulait « Des médecins dépassés par l'enfance », elle posait une question, il y avait un point d'interrogation. Il y avait les résultats d'une étude effectuée en Colombie-Britannique dans diverses classes qui révélait que les enfants plus jeunes, donc plus jeunes dans une classe, sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic d'hyperactivité, de TDAH. Et elle soulevait cette question à travers l'article. Est-ce que parfois on peut confondre TDAH et immaturité? Est-ce qu'on peut confondre ce trouble-là, trouble neurologique, avec d'autres maladies, d'autres troubles?
Bon, le TDAH, c'est jusqu'à un certain point une immaturité du cerveau. Alors, il y a des études sur la maturation cérébrale qui ont été faites par Dr. Shah et qui montrent qu'à l'âge de 10 ans, les personnes qui ont un déficit d'attention ont une maturation cérébrale dans certaines régions retardée jusqu'à plus de 2 ans. Alors, il est sûr qu'une personne qui est née le... Si je me souviens bien, là, la date transitoire, la date...
ça doit être fin septembre.
30 septembre. Oui. Alors, c'est sûr qu'un enfant qui est né le 29 septembre, qui a une maturation normale pour son âge, mais qui est en fait un an plus jeune que l'enfant qui est né le 2 octobre, qui est dans la même classe que lui. Et si cet enfant-là... en plus de ça, bien, une maturation, disons, qui est au 25e centile pour son âge, donc qui en réalité est peut-être jusqu'à un an et demi plus moins développé que celui qui est né le 2 octobre. Mm-hmm. Effectivement, cet enfant-là est plus à risque d'être soupçonné de TDAH parce qu'il est plus immature. Je m'excuse. Ça ne veut pas dire que automatiquement le médecin qui va faire l'évaluation
établira ce diagnostic-là.
Établir ce diagnostic-là. Il se peut très bien qu'ils disent non, il y a un développement normal pour l'âge, mais il est désavantagé à cause de son groupe.
Et maintenant, pour les gens qui nous écoutent, sur quoi vous allez vous baser pour émettre le diagnostic, c'est-à-dire par quel type de comportement que vous allez détecter chez l'enfant?
Bon, le déficit d'attention, d'abord, le nom est très mal choisi parce que ces enfants-là, ils en ont de l'attention. Ils en ont tout le tour de la tête, d'accord? Ils manquent rien, ils voient tout. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de prioriser, de persister et de porter leur attention là où elle est requise, au moment où elle est requise. D'accord?
Oui. Bon.
Alors, quand on va Personnellement, quand je questionne un enfant, je commence toujours par lui demander qu'est-ce qui va bien. D'accord? Mm-hmm. De quoi tu es fier? Quels sont tes objectifs? Quand un enfant me dit, je lui demande, as-tu passé un bel été? Là, c'était le mois de septembre. As-tu passé un bel été? As-tu eu des belles vacances? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé faire durant tes vacances? Quand j'ai un jeune de 11 ans qui n'est pas capable de me dire ce qu'il a aimé faire durant ses vacances, je lui dis, oh, il y a énormément de misère, de difficulté à organiser sa pensée, à se structurer. Mm-hmm. Donc, je vous dis pas que c'est automatiquement un déficit d'attention, mais c'est certainement
un indice, peut-être.
Un indice. Vous savez, quand on me raconte qu'un enfant oublie ses devoirs tous les soirs, ça peut être tout simplement parce qu'il aime pas l'école. Quand vous me dites qu'il rêve de hockey, puis que quand il arrive pour une pratique, il a oublié son bâton, mais c'est beaucoup plus significatif. Mm-hmm. D'accord? Alors, on va chercher des éléments comme ça à l'histoire, et on va surtout chercher une répétition d'éléments. Comprenez?
Ouais.
On a tous probablement oublié de rapporter une pinte de lait après l'ouvrage le soir, mais ça fait pas de nous des TDAH. Il faut que les signes d'inattention, les signes d'impulsivité soient significativement plus sévères que le développement normal de l'enfant, et il faut que ça nuise dans au moins deux des trois milieux de l'enfant. Alors, ça, faut que ça se nuise. Bon, habituellement, ça va nuire à l'école parce que c'est eux qui vont lancer le premier drapeau rouge, mais il faut démontrer que ça nuit dans le fonctionnement optimal familial ou dans les loisirs. D'accord? Il faut montrer qu'il y a une perturbation du fonctionnement dans au moins deux milieux.
On parle de nuire, docteur Leroux. Est-ce que ça vous est arrivé d'observer dans votre pratique un mauvais diagnostic, c'est-à-dire un enfant qui a reçu le diagnostic TDAH, mais finalement, avec le temps, il vieillit un peu, on se rend compte que c'était autre chose. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça arrive?
Ben oui. Oui. Ben oui, ça se peut. Ça arrive. On espère que ça arrive le moins souvent possible, mm-hmm. mais je pense, moi le premier, ça m'est déjà arrivé de me tromper et je pense que c'est... T'sais, on n'est pas infaillible. On se trompe à l'occasion. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir, après avoir fait une évaluation clinique, on va penser qu'on a tous les éléments nécessaires. Mm-hmm. Et on va, on va commencer à mettre de l'encadrement, t'sais, comme des rappels, il y a des façons particulières d'aider ces enfants-là à ne pas oublier, à leur mettre des mémos un peu partout. On peut même commencer la médication. Et tout à coup, on réalise qu'on a beau traiter, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut pas avoir peur de se remettre en question.
C'est comme ça qu'on s'en rend compte quand la médication fonctionne pas.
Non, on peut s'en rendre compte avant.
Mm-hmm.
Okay. Il y a des enfants qui nous sont référés pour suspicion de troubles de l'attention et on les évalue. On trouve non, ils n'ont pas de déficit d'attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de diagnostiquer finalement une myopie ou
ah, oui.
C'est des choses comme ça. Et c'était pas non. Alors, ça peut. Parce que dans le fond, tout ce qui rend l'enfant distrait ou ce qui rend l'enfant indisponible va donner un tableau qui va ressembler à celui d'un déficit de l'attention.
Mm-hmm.
Alors, quand la pauvre ou le pauvre enseignant est pris avec 20, 25 ou 30 élèves, il n'y a rien qui ressemble plus à un enfant qui a un déficit d'attention qu'un enfant qui est indisponible oui. parce qu'il est stressé par n'importe quoi. Là. Voilà.
Je lisais le témoignage d'une maman qui s'avérait également médecin et qui relatait que quand son fils a commencé l'école, l'enseignante a... Bon, émis un soupçon de TDAH parce que il se perdait dans l'école, il oubliait ses devoirs, il n'arrivait pas à jouer avec les autres amis plus de 10 minutes et tout. Et ben suite à des suivis, à des questionnements, ils se sont tout simplement rendu compte que ben chez l'enfant au sein de la famille, l'éducation était plutôt relax, on pourrait dire. Et tandis qu'à l'école, eh bien, on était dans une structure très, très stricte et ça amenait vraiment pour l'enfant beaucoup d'adaptation, finalement. Il avait à s'adapter à ces changements de structure-là. Mais finalement, ben, on a resserré un peu à la maison, on a peut-être un petit peu allégé à l'école et l'enfant s'est rétabli et a pu suivre le cadre scolaire de façon beaucoup plus adéquate. Donc, ça peut aussi être des histoires comme celle-là.
Bien, c'est sûr, mais je voudrais pas qu'à la fin de l'entrevue, les parents se sentent coupables du TDAH de leur enfant, parce qu'au moins 76% du TDAH est génétique. Donc, c'est hérité sans que vous le sachiez. Et il y a considérablement de causes organiques comme une insulte cérébrale. Alors, si votre enfant a eu une méningite, si votre enfant a eu une souffrance à l'accouchement, si votre enfant a eu un retard de croissance intra-utérin, ce sont toutes des conditions qui peuvent éventuellement, ce sont des conditions biologiques qui finalement prédisposent au déficit d'attention. Alors, les causes purement psychologique ou purement social, manque d'encadrement. Je vous dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même
beaucoup
l'exception.
Plus rare, ouais.
C'est quand même l'exception.
Les parents, quand ils ressortent de votre bureau, Dr. Leroux, avec ce diagnostic, est-ce qu'on les encadre? Est-ce qu'il y a des programmes pour ces enfants-là, pour ces familles-là?
Bah, écoutez, moi, je travaille dans une clinique de troisième niveau. Donc, les gens, habituellement, ont déjà été diagnostiqués et se font où on soupçonne un diagnostic, mais ça semble complexe, alors on va nous l'envoyer à notre hôpital. Donc, j'ai dit troisième, c'est deuxième niveau. Alors, c'est sûr que moi, j'ai toute une équipe, et ce que je dis souvent aux parents, diagnostiquer un déficit d'attention chez un enfant, ça, c'est le bout facile, d'accord? Ce qui est difficile, c'est de diagnostiquer qu'est-ce qui vient avec le TDAH, parce que au moins 19 enfants sur 20 ont un deuxième diagnostic associé, et ce deuxième diagnostic, que ce soit un trouble d'apprentissage, que ce soit un trouble oppositionnel, que ce soit un trouble anxieux de l'humeur, un syndrome de Tourette, nommez-le, ce sont souvent ces deuxièmes diagnostics-là qui vont influencer le plus
l'évolution. Le parcours de l'enfant,
C'est ça, le parcours de l'enfant. Et pour le pauvre parent, bien, ça devient un petit peu difficile de démêler tout ça. Oui. Alors nous, on a effectivement des programmes pour les jeunes de 3 à 5 ans. On en a pour les jeunes de 8 à 12 ans. On essaye d'en faire pour les adolescents actuellement. Et ce sont des programmes qui ont été publiés, qui sont transmis dans les CLSC. Je peux vous dire aussi que j'ai travaillé 30 ans en pratique privée dans la Couronne Nord. Et dans la Couronne Nord, il y a un groupe d'entraide qui s'appelle Vision TDAH, qui regroupe les commissions scolaires, les CLSC, les regroupements PANDA. PANDA, qui sont personnes aptes à négocier le déficit d'attention. Et il se fait beaucoup d'aide dans ce secteur pour aider justement les nouvelles personnes diagnostiquées, pour pas justement qu'elles se sentent seules et dépourvues et démunies. Parce qu'effectivement, quand on pose le diagnostic, c'est pas toujours... Il y en a qui sont contents parce qu'ils vont nous dire « Enfin, on comprend qu'est-ce que notre enfant a. » Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu... pris au dépourvu ou déçus. Alors, il faut quand même accompagner tout le monde.
Docteur Leroux, le temps file à la vitesse de l'éclair. J'aurais aimé aborder avec vous tout l'impact de la médicalisation des enfants, mais le temps ne nous le permet pas. Peut-être que vous aurez le plaisir, nous aurons le plaisir de se reparler de ça.
Ah ben moi, j'aimerais bien ça, oui, parce que c'est mon sujet de discussion favori, alors n'importe quand.
Ben c'est l'invitation est lancée, on va se reparler à cet effet. Je rappelle, Dr. Jacques Leroux, vous êtes pédiatre à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci beaucoup, bonne journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour Isabelle Roy.
Bonjour.
Avant de débuter, j'aimerais lire un extrait de votre livre « Nos cours prénataux à la maison se préparer à l'accouchement en 7 leçons ». C'est un passage qui, je crois, est de votre co-auteur Sylvie Thibault. Ça va comme suit. « Devenir mère exige un don de soi. Il est toutefois important d'écouter ses besoins et ses limites. Chaque femme vit la maternité à sa manière. » J'ai choisi ce passage-là, Isabelle, parce que je trouve qu'il traduit très, très bien votre livre.
Oui.
Qui est là pour accompagner, pour informer, qui livre vraiment une panoplie d'informations à laquelle on n'a jamais eu de réponse. On se demande si c'est des mythes, même si c'est des blagues, mais vous l'abordez en toute simplicité. C'était l'un de vos objectifs, mais il y en avait plein d'autres, Isabelle, avec ce livre-là que vous avez, je pourrais dire, cogité, porté pendant plusieurs mois.
Plus de 9 mois, oui. Tout à fait, mais je suis bien contente d'entendre ça parce qu'effectivement, chez Marie-Monde, on a toujours eu à cœur d'accompagner chaque femme, chaque futur couple de parents vraiment en fonction de leur vécu personnel. Et on est vraiment dans le non-jugement, puis on veut vraiment adapter le contenu de notre information à leurs besoins.
Mm-hmm.
Fait que oui, ça sera un passage vraiment intéressant à mentionner, tout à fait.
La genèse, je lisais, c'est un petit peu parce que quand vous avez commencé à accompagner des couples, des jeunes familles, vous vous êtes rendu compte que les mères pouvaient apprivoiser la douleur, que c'était possible. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur parce que quand on pense, en tout cas du moins pour les mères, les femmes qui n'ont jamais accouché, qui vont devenir mères, la douleur, ça peut être assez effrayant, la douleur liée à l'accouchement. Mais vous, vous dites que ça se peut de l'apprivoiser.
Oui, tout à fait, parce que quand les mères nous téléphonent les premières fois en vue de l'accouchement, elles nous disent que s'il y a un sujet qu'elles veulent bien aborder dans les cours de préparation à l'accouchement, c'est bien la fameuse douleur. Mais ce qui m'a frappée au cours de ma pratique comme accompagnante à la naissance chez Marie-Monde, c'est que quand on prépare bien les parents dans des cours prénataux, bien en fait, la douleur de l'accouchement est beaucoup mieux vécue parce que la mère arrive grâce à des techniques de relaxation à sécréter des endorphines, hormones qui a un effet analgésique comme la morphine, sans avoir ses inconvénients. Et puis finalement, que de manière très concrète, le partenaire peut aussi accompagner sa conjointe par des techniques de respiration, des techniques de massage qui va amener davantage de sécrétion de cette hormone-là qu'on appelle les endorphines. Fait que ça l'explique que finalement, ben accoucher, c'est pas comme on voit souvent à la télé que la mère crie de tout bas, tout côté. Au contraire, nous, on a vu de super belles histoires d'amour. Un accouchement, c'est vraiment une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et on a même déjà vu une demande de mariage dans un accouchement. D'ailleurs, dans une des capsules de Sylvie Thibault, elle raconte cette anecdote dans l'ouvrage « Nos cours prénataux à la maison ».
Donc, en tant qu'accompagnatrice, oui, à la naissance, vous êtes témoin d'histoires comme celle-là, de belles histoires. Quel est votre rôle précisément?
En fait, l'accompagnante à la naissance, c'est une professionnelle en périnatalité qui va vraiment accompagner des parents qui sont suivis par un médecin pendant leur grossesse et qui vont donner naissance à leur bébé à l'hôpital. C'est que le rôle de l'accompagnante existe au Québec depuis plus de 30 ans, c'est qu'elle va permettre de personnaliser davantage le contenu des leçons prénatales. On peut se déplacer au domicile des parents pour animer des cours de préparation à l'accouchement ou bien d'animer des cours dans des petits groupes Puis ça va, ben justement, on va donner des techniques en vue de l'accouchement. On va les aider notamment pour rédiger un plan de naissance. Mm-hmm. Et une fois qu'on est rendu à l'accouchement, on ne va jamais poser un geste obstétrical. Souvent, les parents nous demandent « Êtes-vous une sage-femme? » On n'est pas une sage-femme. Notre rôle, c'est vraiment de donner de l'information, d'apporter un soutien émotif. Par exemple, à l'accouchement, de rappeler une technique de massage au conjoint qui veut s'impliquer auprès de sa partenaire ou une respiration pour la mère et de répondre à toutes leurs questions. Une fois que le bébé est né, on peut même aider les mères par rapport aux soins du bébé pour l'aide au niveau de l'allaitement. C'est qu'on est vraiment une professionnelle de la santé qui apporte un soutien d'information et émotif.
Est-ce que c'est facile d'en trouver une? Pour les futures familles?
On est de plus en plus de médecins de CLSC vont nous référer des futurs parents. Fait que c'est clair que les futurs parents peuvent en parler aux médecins au CLSC qui vont souvent référer vers des centres de maternité comme Mère et Monde.
Le livre s'intitule « Se préparer à l'accouchement en 7 leçons, nos cours prénataux à la maison ». Est-ce que c'est une façon d'éviter les cours prénataux ou c'est plutôt un complément?
Moi, je vous répondrais oui et non. C'est clair qu'il y a des parents qui vont lire le livre « Nos cours prénataux à la maison », notamment des parents qui sont éloignés, qui n'ont pas accès à des cours de préparation à l'accouchement. Mmh. Et c'est une bonne base, vraiment de base. Mais c'est clair que pour des parents qui voudraient peut-être davantage personnaliser le contenu des leçons pour que l'intervenante réponde à toutes leurs questions d'ordre plus personnel ou de, par exemple, connaître leur propre protocole hospitalier parce que d'un hôpital à l'autre, le protocole va être différent. C'est sûr que l'accompagnante va animer des cours de préparation à l'accouchement peut-être davantage développés en fonction des besoins des parents, puis aussi de mettre en pratique tous les exercices qui sont proposés dans notre ouvrage dans la partie pratique, de montrer des vidéos et de répondre toujours à leurs questions très personnelles.
Donc, le livre fournit de l'information pour la préparation à l'accouchement, aussi tout ce qui est lié à la grossesse, à la période postnatale qui suit l'accouchement. Mm-hmm. Ça peut également aider les infirmières, d'autres accompagnantes à la naissance. Ça défait des tabous, ça défait des mythes également. Vraiment un livre très, très complet que vous avez écrit avec votre collègue Sylvie Thibault, nos cours prénataux à la maison, se préparer à l'accouchement en 7 leçons. Merci beaucoup, Isabelle Rouen.
Je vous remercie énormément de votre intérêt. Pour les parents qui voudraient en savoir davantage, ils peuvent consulter notre site Internet au www.mareetmonde.com ainsi que le site Internet coursprenato.com.
Et ça sera sur notre site. Merci beaucoup, Isabelle Rouen.
Merci à vous.
Au plaisir.
Je vous souhaite une belle fin de journée et une très belle grossesse à toutes les mères qui nous écoutent.
Merci.
Merci, au revoir.
Eh bien, c'était Yannick Roberge à la mise en onde de Marianne Paquette qui vous salue, qui vous rappelle qu'on est au canalm.org et qui vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.